Alors, je vous invite à tourner dans la première lettre de Jean, au chapitre 3. On va finir le chapitre 3 dans cette série sur 1 Jean. Et aujourd'hui, on va voir, et c'est intéressant parce que ça fait suite à ce que Normand nous enseignait la semaine dernière, à s'aimer les uns les autres. Et comme quoi s'aimer les uns les autres, c'est un défi enrichissant. C'est à la fois un défi de s'aimer, mais c'est en même temps enrichissant, c'est ce que Jean nous enseigne. Mais parfois dans nos cœurs, il y a des obstacles qui nous empêchent d'aimer les gens. Des fois, c'est des blocages, mais d'autres fois, c'est à cause qu'on a une nature qui est portée vers le mal. Et un de ces obstacles-là, on va le voir tout à l'heure, c'est la jalousie. Mais vous savez que la jalousie, c'est pas un phénomène qui est isolé à la francophonie. Sur un site qui est le site theriches.com, on voit que les 12 plus grandes rages de jalousie à Hollywood. Et oui, mesdames et messieurs, même les grandes vedettes qui gagnent des millions à chaque année vont tomber dans la jalousie. Il cite par exemple, je ne citerai pas tous, mais vous pourrez aller consulter si ça vous intéresse. Selon les rumeurs rapportées sur ce site de divertissement, Kim Basinger aurait développé de l'anxiété et de l'agoraphobie après avoir manifesté de la jalousie à l'égard de Alec Baldwin. Là, ça va loin. Quand tu développes après des pathologies, parce que ta crise de jalousie a été intense, c'est vraiment intense. Beyoncé et Jay-Z. Beyoncé était jalouse parce que Jay-Z textait Rihanna, parce qu'il y avait une relation d'affaires. Puis l'intensité est devenue tellement grande, selon ce que nous rapporte ce site, qu'ils se sont bagarrés dans le restaurant. Et là, c'est intense. Hein? Chris Brown et Rihanna. Eh bien, il y a eu une guerre d'insultes sur Twitter, et ça va comme suit. Juste pour vous montrer que la jalousie, où est-ce que ça peut amener? Mais il n'y a pas juste aux États-Unis que les gens vont manifester la jalousie. Malheureusement, ça se vit au Québec. Je ne sais pas si vous la reconnaissez ici, mais Émilie Bière, qui en 2014 avait 10 ans, eh bien, a été victime d'intimidation. Dans un article intitulé « Comédienne dans les beaux malaises, la jeune Émilie Bière intimidée à l'école ». Voici ce que nous dit Raphaël Gendron-Martin sur les pages du Journal de Montréal. « Jaloux de son succès de comédienne, des camarades de classe de la jeune Émilie Bière, 10 ans, l'ont intimidée au point de la faire changer d'école ». C'est incroyable, ça. Elle avait du succès parce qu'elle était avec Martin Matt dans les séries Les Beaux Malaises. Et ça l'a tellement eu d'impact sur sa vie qu'elle a dû changer d'école. Comment que la jalousie, ça peut amener loin? Et ça nous montre que la jalousie, c'est pas toujours une marque d'amour, hein, parce qu'on peut être jaloux de ce que quelqu'un d'autre s'intéresse à notre partenaire. Et jusqu'à une certaine limite, c'est tout à fait normal, parce qu'il y a un engagement entre les deux, spécialement lorsqu'on est marié. Mais, à un moment donné, la jalousie prend une forme qui est malsaine. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Et pour nous, les disciples de Jésus-Christ, on n'est pas appelés à vivre puis à manifester cette jalousie malsaine. Nous, ce qu'on est appelé, puis le texte, ce qui nous appelle, ce qui nous interpelle, ce que Jean nous interpelle, c'est à s'aimer les uns les autres. Pourquoi? Parce que la manière humaine a ses limites, puis ultimement, la manière humaine d'aimer est vouée à l'échec. Puis pourquoi on est appelé à s'aimer les uns les autres également? Parce que Jésus-Christ nous inspire à aller dans cette direction-là. Nous incite à aller dans cette direction-là. Sa vie nous inspire à aimer les autres. Et parce que les fruits d'aimer les autres, le résultat, c'est agréable. Alors, je vous invite à ce qu'on puisse se recueillir ensemble quelques instants pour que notre cœur soit disposé à recevoir ce que Dieu veut nous enseigner au travers de sa parole. Seigneur, ta parole, elle est riche. Parfois, elle fait du bien à notre cœur. Parfois, elle nous réconforte. Parfois, elle nous stimule. D'autres fois, elle nous corrige. D'autres fois, elle nous reprend. Parfois, ta parole nous reprend avec toute douceur, toute délicatesse. Et à certains moments, elle nous reprend sévèrement. Mais Seigneur, ce qu'on sait, ce qu'on découvre au travers de ta parole, au travers de ta personne, c'est que tu es un Dieu qui est doux et humble de cœur. Merci pour ta parole aujourd'hui. Que ta parole puisse mettre en lumière s'il y a des sources de jalousie malsaine dans nos cœurs, que tu puisses les mettre en lumière pour qu'on en soit dégagé, libéré, et qu'on puisse aimer encore plus que jamais les gens que tu as placés sur notre route. Merci de produire cette œuvre dans nos cœurs par ton esprit et pour la gloire de Jésus. Amen. 1 Jean 3:11. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn. Il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste, quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant lui. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Et voici quel est son commandement. C'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a ordonné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Le Seigneur nous appelle à s'aimer les uns les autres et ça devient un défi enrichissant. Parce que s'aimer comme Dieu veut qu'on s'aime, s'aimer d'une manière inconditionnelle, ça veut dire, ici dans le passage, c'est s'aimer sans que ça nous rapporte. S'aimer, quand je dis s'aimer, c'est pas s'aimer soi-même, là, c'est s'aimer les uns les autres. Ça veut dire aimer l'autre sans qu'il y ait de retour d'ascenseur. Et ça peut même vouloir dire jusqu'à aimer l'autre, même si c'est au détriment de soi-même. L'exemple de Jésus est clair là-dessus. Mais l'amour humain finit par atteindre sa limite, finit par atteindre son cul-de-sac. Il suffit d'un élément, il suffit d'une circonstance, il suffit d'une situation qui nous blesse, qui nous frustre, qui nous rentre dedans, et puis on ferme la porte à l'amour. Puis un de ces éléments-là, c'est la jalousie. Sous la Nouvelle Alliance, il y a plusieurs avertissements par rapport à la jalousie. Puis la jalousie, c'est quelque chose de sournois. c'est quelque chose que même souvent, ça ne paraît pas. Puis ce que les psychologues disent, c'est que la jalousie, c'est une des formes de mal qui est la moins évidente à la vue. C'est le genre de faute que les gens vont cacher au plus profond d'eux-mêmes. Et ce qui est étonnant, c'est que dès les premiers nés d'Adam et Ève, au début de la création, ce qui est mentionné de leurs enfants, leurs premiers enfants, la première manifestation de mal, ça a été la jalousie. On voit ça dans Genèse chapitre 4. On voit que Ève tombe enceinte parce qu'elle était unie à Adam. Puis, elle met au monde Caïn. Par la suite, vient Abel. À un moment donné, Caïn devient cultivateur, Abel devient éleveur. Et Caïn offre une offrande des produits de la terre, donc des fruits, des légumes, à l'Éternel. Écoutez, il l'offre à Dieu. Mais Abel, lui, il prend un premier-né de ses bêtes, il l'offre en sacrifice, il égorge l'animal, fait couler le sang. Et là, ce qui arrive, Dieu dit, « Moi, j'approuve l'offrande d'Abel, mais pas la tienne, Caïn. » Il y a deux raisons pour ça. Un, Dieu avait dit à leur père, Adam, que tu vas travailler la terre à la sueur de ton front, je vais maudire la terre. Caïn offre des fruits de la terre qui est maudite. Abel, lui, avait certainement entendu l'histoire de son père qui avait été recouvert d'habits de peau, donc que Dieu avait dû offrir des animaux en sacrifice, et que ça, c'était une image du Messie qui allait venir, l'agneau de Dieu qui allait venir. Alors lui, comme Hébreu 11 nous dit, Hébreu 11, 4, il a offert par la foi. N'oubliez pas, Paul nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il a offert par la foi, il a cru le témoignage qu'on lui a rendu qu'il allait avoir un Messie qui allait venir. Il avait mis son espérance de ce qu'il n'avait pas à travailler pour être sauvé, mais à recevoir le don gratuit, que quelqu'un allait payer à sa place. Et ça, c'était agréable à Dieu. Le problème, c'est que Caïn, lui, est frustré de ce que son frère a l'approbation de Dieu, a la tape sur l'épaule de la part du Père céleste. Et c'est pour ça que l'Éternel va dire au verset 6 à Caïn, « Pourquoi t'es-tu irrité? Pourquoi abords-tu un air sombre? » Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Qu'est-ce que Caïn fait? Il invite son frère dans les champs, il jette sur lui, il le tue. Dieu vient voir Caïn et dit, « Où est-ce qu'est ton frère Abel? » Il dit, « Suis-je le gardien de mon frère? » Il dit, « Écoute, le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Et là, Dieu va maudire Caïn. Caïn a agi par jalousie. Et Jean nous dit que c'est mal ce qu'il a fait. Et il va nous dire au verset 12, tout de suite après de dire, hey, aimons-nous les uns les autres. L'important, c'est de s'aimer les uns les autres. Il va dire au verset 12, dans 1 Jean 3, « N'imitons pas Caïn. Il était du malin et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. » Il l'a tué parce qu'il était jaloux. Mais savez-vous, dans Galates 5, 26, ça nous dit, « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. » Dans Proverbe 14, 30, ça nous dit, « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. » Quelle est la différence entre l'envie et la jalousie? Là, j'ai besoin de toute votre attention parce que il y a un petit twist ici, là. L'envie, c'est vouloir ce que l'autre a que j'ai pas. OK? Ça, c'est l'envie. Mon voisin a une BMW. Dieu sait que j'aime les BMW. Moi, je n'en ai pas. Donc, je peux envier mon voisin qui en a une. Ah, oh, j'aimerais tellement savoir une BMW comme celle de mon voisin. La jalousie, c'est je ne veux pas que l'autre aille ce que je n'ai pas. En d'autres mots, moi, je n'ai pas de BM, lui, il n'a pas d'affaire à avoir une BM. Je ne veux pas que l'autre aille ce que je n'ai pas. Il y a une compétition. Je ne veux pas que l'autre soit égal ou plus fort que moi. Je ne veux pas que l'autre me dépasse. Mais ce que Paul va dire aux Corinthiens, c'est que la jalousie, c'est un élan charnel. Et ce que ça provoque des disputes dans 1 Corinthiens 3:3. Et c'est ça qui est le problème. La jalousie, lorsqu'elle s'exerce dans l'Église, peut créer des ravages. Lorsqu'elle s'exerce dans des couples, lorsqu'elle s'exerce au travail, lorsqu'elle s'exerce partout. La jalousie peut être causée souvent par de l'insécurité, par un esprit de rivalité. Elle peut être générée par de la peur, par de l'anxiété. Mais quoi qu'il en soit, la jalousie va créer inévitablement des divisions, va créer, pas nécessairement de manière physique, mais va créer une mort, une séparation. La jalousie, c'est malsain. La jalousie crée des frustrations, de l'irritation, de l'insatisfaction. Elle pollue les relations humaines. Elle empoisonne l'existence de celui qui la laisse développer ou de celle qui la laisse développer dans son cœur. Elle dégrade les relations, la communion fraternelle. Et c'est un mauvais témoignage pour les non-croyants. La jalousie va parfois nous amener à contredire les autres, vouloir s'opposer continuellement aux autres. Et comme on voit dans Galates 5:20, elle trouve sa racine dans le côté mauvais, dans le cœur mauvais de l'être humain. Quand elle n'est pas maîtrisée, la jalousie, elle va se manifester par des injures, des insultes, de l'agressivité. On voit ça dans 1 Samuel 18 et 1 Samuel 19. Et c'est pour ça que Jean va dire, « Imitons pas Caïn, il est du mal, il a tué son frère, parce que sa manière d'agir était mauvaise et que celle d'Abel était juste. » En d'autres mots, Dieu est en train de nous dire, la jalousie ne doit pas exister au milieu de nous parce qu'on est appelé à s'aimer les uns les autres. On est appelé à se réjouir quand Dieu honore une autre personne. Parce que de toute façon, Pierre va le dire, puis on va le voir avec Normand dans quelques semaines, quand il va arriver au 5e chapitre de la première lettre de Pierre. Qu'est-ce que nous dit Pierre dans 1 Pierre, chapitre 5? « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, et il vous élèvera au temps convenable. » Puis la raison pour laquelle Dieu ne veut pas qu'on entretienne de la jalousie dans notre cœur, c'est parce que c'est la source de toute rivalité. Et dans l'Église, on n'a pas besoin de rivalité. On a besoin de s'encourager les uns les autres. Et on a des dons différents, des habiletés différentes, et il y a de la place pour tout le monde. Quand le texte nous dit que Caïn était du mal, c'est un mal ponéros, c'est un mal qui veut s'imposer, c'est un mal qui veut polluer, c'est un mal qui veut que les autres en soient atteints. En d'autres mots, Caïn voulait imposer sa façon de voir les choses. il ne voulait pas que le Seigneur approuve un autre que lui. Puis c'est pour ça qu'il a sacrifié son frère. Puis pourquoi? Il l'a haï, le détesté. Mais ce que nous dit Jean au verset 13, ce qui est intéressant, c'est il va faire suite. « Ne vous étonnez pas, mes frères, si le monde vous déteste. » En d'autres mots, c'est certain que si des gens voient que la bénédiction de Dieu est sur toi, si des gens voient que Dieu enrichit ta vie, là, quand je parle d'enrichir la vie, ce n'est pas juste financièrement, là, c'est tout notre être, notre intériorité, notre personne. Il va sûrement y avoir des gens qui vont être jaloux de ce que vous avez, de ce que vous vivez, de ce que vous reflétez. Si tu es au travail, par exemple, puis tu es honnête, puis toi, tu respectes le temps, ton temps de travail, tu respectes ton temps de pause, ça se peut qu'il y en a qui n'aiment pas ça parce que ça les met en lumière. Puis même Paul va le dire dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, que pour certains, on va être une odeur de vie, puis d'autres, une odeur de mort. Et donc, on ne doit pas être surpris de ce qu'il y a des gens qui ne nous aimeront pas. Mais en même temps, Pierre, encore une fois, il va dire que si tu agaces ton frère ou si tu le traites d'une mauvaise façon, là, ce n'est pas parce que la gloire de Christ repose sur toi là, qu'il ne t'aime pas. C'est parce que tu y tapes ses nerfs. Parce que tu es désagréable. Et Dieu ne nous appelle pas à être désagréable envers les gens. Il nous appelle à vivre dans la vérité puis d'exprimer la vérité dans l'amour. Et au verset 14, il va dire, « Quant à nous, nous savons d'une manière absolue que nous avons migré de manière permanente de la mort à la vie et que nous sommes métamorphosés, étant séparés de la mort, parce que nous aimons les frères. » C'est incroyable, hein? Parce que si on n'aime pas, puis si on est pris par la jalousie, ça peut produire la mort au travers de nous. Et Jean est en train de dire, non, maintenant que tu es né de nouveau, tu es passé de la mort à la vie. Maintenant, tu es séparé de ce monde de la mort-là. Tu es séparé de ce monde de la haine-là. Tu es appelé en tant qu'enfant de Dieu à aimer les frères. En d'autres mots, c'est vouloir le bien de l'autre. Vouloir que l'autre puisse bénéficier de la vie. Vouloir que l'autre reçoive le meilleur de nous-mêmes. Puis c'est dur dans une époque où est-ce que on n'arrête pas de nous dire, de nous endoctriner, aime-toi toi-même, aime-toi d'abord. Faut que tu t'aimes pour aimer les autres. Le Seigneur n'a jamais dit aime-toi toi-même. Il dit aime l'autre comme toi-même. Mais le commandement, c'est d'aimer l'autre. Le commandement, c'est pas de s'aimer soi-même. C'est « Va aimer l'autre comme tu t'aimes. Va aimer l'autre, c'est ça que je te commande. Si tu as peu d'amour, mais va l'aimer avec le peu d'amour que tu as, mais va l'aimer. » Mais on nous enseigne le contraire, c'est « Aime-toi toi-même. » Mais le Seigneur veut nous apprendre à aimer parce qu'il veut qu'on manifeste la vie. Et au verset 14, il va dire « Celui qui n'aime pas son frère a fait son habitation dans la sphère de la mort. » Et ça, c'est parce que lorsqu'on n'aime pas quelqu'un, et on va le voir plus en détail au chapitre 4, parce que Jean va dire « Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? » Notre niveau d'amour pour Dieu est équivalent à la personne qu'on aime le moins. En d'autres mots, c'est ça que ça veut dire. Et Salomon va nous dire dans le Proverbe 8 que tous ceux qui détestent la sagesse de Dieu aiment la mort. Il y a quelque chose de Dieu sur lequel on résiste. Lorsque
on n'aime pas notre frère. Il met en lumière notre manque d'amour pour Dieu. Mais ça, c'est normal. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on est tous des pécheurs. On est tous des pécheurs. Moi, je me souviens une fois, j'avais lu un livre qui m'exprimait, puis c'est un chrétien qui a écrit ça, puis il disait, si vous avez de la haine contre un frère, mettez une chaise devant vous, faites semblant qu'il est devant vous, puis écrivez tout ce que vous n'êtes pas capable de lui dire sur papier, puis après ça, lisez-la avec toutes les émotions que ça génère. Puis moi, à un moment donné, j'étais là, je lâchais ma feuille, j'étais en train de frapper sur lui, là, j'étais en train de cracher dessus, puis là, j'étais en train de dire, tu, babi, bad, boom, bing, bang. C'était comme, et puis c'était vidé à la fin, puis j'ai dit, tabarnouche, c'est incroyable comment, dans mon cœur, il y a tant de haine envers cette personne-là, c'est fou. Puis savez-vous quoi? Aujourd'hui, là, à partir de là, il y a un processus qui s'est opéré graduellement. Puis aujourd'hui, là, je vois cette personne-là. Avant, quand je la voyais puis je l'entendais parler, elle m'agressait. Puis savez-vous qu'est-ce que le Seigneur a produit dans mon cœur? Je l'ai vu récemment, puis j'avais de la compassion, puis là, je comprenais que cette personne-là souffrait énormément. Je me dis, pourquoi être toujours en colère? C'est le genre de personne, là, qui, on dirait qu'il y a un fil électrique qui pend, là, mais qui a encore du courant dessus. Puis à chaque fois que ça touche du ciment ou du métal, ça... C'est toujours... Puis, tu sais, c'était comme, ah, oh, wow! Puis j'ai eu, mon fils pourra le témoigner, j'ai eu une phase comme ça dans ma vie. Là, puis là, c'est comme si, là, je l'ai vu à un moment donné, avec ce fil-là qui touchait pas mal le métal. Parlait avec agressivité. Avant, ça m'aurait agressé. J'aurais dû dire, « Colin de Bin, qu'est-ce que t'as à être de même? »
Pour les amis français ou de l'Afrique, « Colin de Bin », ça veut dire « sapristi ». C'est à peu près l'équivalent. Des bins, c'est des haricots. On va juste poser. Alors, j'allais faire une farce, mais je vous la dirai après, en dehors de l'enregistrement. Alors, mais aujourd'hui, je vois cette personne-là, puis je l'ai vue dans son intensité retenue, mais remplie de colère, d'amertume. Là, j'ai réalisé, j'ai comme vu, c'est comme ça m'a enlevé toute agressivité contre cette personne-là. J'ai dit, tabarouette, cette personne-là, elle souffre en titi. Pour parler et d'être animé de cet esprit-là. C'est l'œuvre que Dieu a opérée dans ma vie. Je rends grâce à Dieu. En d'autres mots, ce que Jean dit, parce qu'au verset 15, il dit, « Tout homme qui déteste continuellement son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. » En d'autres mots, d'entretenir la haine, ça ne provient pas de Dieu. Ce n'est pas le trait d'un enfant de Dieu. On n'est pas animé de la sagesse d'en haut dans ce temps-là. Alors, pourquoi on est appelé à s'aimer les uns les autres? Eh bien, parce que Christ nous y inspire. Jésus-Christ s'est donné de manière sacrificielle. Il s'est donné pour nous. On voit au verset 16... Voici comment nous avons expérimenté l'amour. Christ a donné son être pour nous. Nous aussi, nous avons l'obligation morale d'offrir notre être pour les frères. Et plus que je découvre que Jésus-Christ a donné sa vie, puis la portée du fait qu'il a donné sa vie pour moi, plus que je découvre que je ne mérite pas son amour, c'est pas parce que, justement, il y a eu de la compassion dans mon cœur pour cet homme-là qui m'agressait par son état d'être, que je suis devenu un meilleur chrétien. Puis que là, je vais gagner plus de faveur de la part de Dieu. Non, je reconnais que c'est son œuvre, point. That's it. C'est
c'est son œuvre qui a opéré, qui m'a amené dans la lumière, qui m'a amené à confesser, qui m'a amené à voir que je suis pas meilleur que lui en tant qu'être humain. Sur d'autres aspects, je suis peut-être même encore moins bon que lui. Puis pas peut-être, sûrement. Assurément. Parce qu'à chaque fois que je viens à la croix pour me rappeler que Jésus-Christ est mort pour mes fautes, ça me rappelle que je suis un condamné qui a été racheté. Et ça me rappelle que moi, je ne mérite rien devant le trône de Dieu. Je mérite la mort, mais Jésus-Christ a pris ma mort. Il est mort à ma place. Et plus que je découvre ce message-là, plus que ce message-là devient une réalité pour ma vie, plus que ça produit en moi un amour sacrificiel pour les autres. C'est pour ça qu'il va aller de manière concrète par la suite au verset 17. « Si quelqu'un possède les nécessités de la vie dans ce monde et est témoin depuis un bon bout de temps que son frère est continuellement dans le besoin et qu'il lui ferme brusquement son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? » Et dans le grec, c'est vraiment clair. C'est quelqu'un qui possède les nécessités de sa vie puis qui est témoin que quelqu'un depuis un bon bout de temps est dans le besoin. Là, tu fermes ton cœur. Tu sais, le Seigneur, il te rappelle, « Hey, tiens, un tel, là, va donc y amener une pièce de viande ou va l'aider. » Ou puis, « Non, non, j'ai pas le temps, ça me tente pas. » Il dit, « Regarde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. » Et c'est ça que le Seigneur veut faire avec nous à différents niveaux, parce que au verset 18, il dit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. » Et au travers les groupes connexion qu'on va établir au mois de novembre, eh bien, ça va être une opportunité d'être ensemble. Parce que les groupes connexion, c'est pas une école du dimanche où est-ce qu'il va y avoir des thèmes qu'on va enseigner. Oui, il va y avoir des thèmes qui vont être enseignés. Mais l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est pas de s'asseoir puis recevoir. L'objectif, c'est d'implanter 4 nouvelles églises à l'intérieur de l'église. Puis où est-ce qu'on va apprendre à se connaître davantage les uns les autres, s'aider les uns les autres, être plus proches les uns les autres. Et si, par exemple, toi, tu le départ des groupes connexion, ça commence, comment vivre un couple heureux, par exemple? Ou comment c'était phrasé, c'est quand l'amour n'est plus là. Mais tu vas pas juste là pour recevoir, pour que ton couple grandisse, mais tu vas là aussi pour aider les autres couples en disant, ouais, mais mon couple n'est peut-être pas parfait, mais il y a des choses que j'ai comprises au travers des années qui peuvent aider les autres. Puis je peux comprendre les autres. Puis je peux comprendre quand l'amour baisse, qu'est-ce qui se passe. Puis je peux comprendre qu'est-ce qui amène l'amour à baisser. Tu vas pas juste là pour recevoir, mais pour donner aussi. Et c'est une manière concrète, ça. Parce que donner, c'est pas juste pour voir physiquement, matériellement. Puis c'est une chose excellente. Puis on doit le faire. Mais parfois, il y a des gens qui ont besoin d'être écoutés. Des gens qui ont besoin d'être visités. Des gens qui ont besoin d'une tape sur l'épaule. Qui ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls. C'est à ça que ça va contribuer, les groupes connexion. En d'autres mots, le Seigneur, ce qu'il est en train de dire au verset 18, il veut que nos bottines suivent nos babines. En d'autres mots, Dieu nous a donné à chacun des dons, une façon, une manifestation, de pouvoir aider quelqu'un. Ça peut être par une écoute, ça peut être par une parole, mais ça peut être par des gestes concrets. Et c'est pour ça que c'est une manière concrète. Ça va nous amener à concrètement aider puis aimer les autres de faire partie d'un groupe connexion. Par là, verset 19, nous expérimenterons que nous sommes de la vérité et nous rassurons notre cœur. En d'autres mots, notre cœur va être persuadé, convaincu, tranquillisé, apaisé, pacifié en sa présence. En d'autres mots, on va se présenter devant Dieu, puis le Seigneur va dire « bon et fidèle serviteur ». C'est là que je te veux. Vous savez, on focus beaucoup sur nos manquements. Puis, on doit le faire. Si le Seigneur nous met en lumière qu'il y a des choses à changer, on doit les amener au pied de la croix, se nourrir, se laisser instruire, se laisser accompagner dans certains cas. Mais savez-vous, ce qui va nous amener des délivrances puis des guérisons, ça va être d'aimer les autres. D'aider les autres. Combien de fois je me suis vu dans une situation où est-ce que j'étais là pour quelqu'un, puis ce que le Seigneur me disait, tu réalises-tu comment tes problèmes sont minimes à comparer de les siens ou de les siennes? Puis je te disais, wow, Seigneur, c'est tellement vrai. Puis je partais avec cette satisfaction d'avoir contribué au bien-être d'un autre, puis avec un fardeau léger en disant, wow, proportionnellement, ce que je vis, c'est pas grand-chose. Et pourquoi le Seigneur veut qu'on s'aime les uns les autres? Parce que ça enrichit notre être, parce que les fruits sont agréables. Ça nous dit que ça va nous amener de l'assurance. Verset 19, nous rassurons notre cœur en sa présence. Verset 20, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Si on se rend compte qu'on a manqué d'amour, qu'on a manqué d'altruisme, altruisme, ça veut dire, c'est le contraire de l'égoïsme, c'est d'être là pour l'autre. Mais si on se sent coupable devant Dieu, Dieu, il sait, puis il nous connaît d'une manière expérimentale, il sait comment on est fait, il sait où est-ce qu'on a manqué, et c'est pour ça que, même si notre cœur nous condamne parce qu'on a manqué d'amour, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. En d'autres mots, reviens à la croix. Reviens là, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Puis continue, recommence. Relève-toi, vas-y. Le Seigneur a pourvu à la croix, et c'est pour ça qu'on est porteur d'une bonne nouvelle. Et au verset 21, il dit, « À ceux qui sont l'objet de l'amour de Dieu, si notre cœur, s'il n'y a rien qui interfère entre nous et Dieu, s'il n'y a pas de manque d'amour envers les autres, nous avons de l'assurance et de l'audace, une liberté en face de Dieu. » Mais là, il rassure du côté positif, mais justement, s'il n'y a rien qui interfère, tu as de l'assurance. Genre qui va dire que celui qui remplit convenablement son ministère, il s'acquiert de l'assurance. On a de l'assurance. Quand le Seigneur nous appelle à aimer les autres, à donner notre vie pour les autres, à être là pour les autres, ça produit un élan extraordinaire. On a ce sentiment qu'on a fait la volonté de Dieu. On dirait qu'il n'y a plus rien qui peut nous arrêter dans ce temps-là. Mais savez-vous quoi? Revenons un petit pas en arrière. La jalousie. Il ne faut pas s'attendre à recevoir en retour. Tu as aidé quelqu'un, attends-toi pas à ce qu'il te le remette. Si tu t'attends à ce qu'il le remette, tu viens d'empoisonner ta vie. Dieu te remettra au temps convenable par une autre personne, mais pas la personne que tu as aidée. Ça, il n'y a rien de plus mortel dans une communauté que t'attendre à un retour d'ascenseur. Ça, ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Ça, ce n'est pas un don inconditionnel. Puis des fois, c'est blessant quand on s'est donné à fond puis que l'autre, c'est comme... C'est blessant. Mais si on peut aller au pied de la croix en disant, « Je suis blessé, Seigneur. Mais je te remets mes attentes, je te remets mes douleurs, je te remets ce mal que ça a créé dans mon cœur. Je veux apprendre à aller plus loin. Je veux apprendre à connaître ton amour inconditionnel. » Vous savez, le Seigneur Jésus le dit, hein? Celui qui se sait aimé de beaucoup, hein? Aime beaucoup, pardonne beaucoup. Celui qui se sait aimer peu, pardonner peu, pardonne peu, aime peu. Et un autre des effets bénéfiques, c'est que Dieu répond aux prières. Verset 22, « Quoi que ce soit que nous avons l'habitude de demander continuellement, nous continuons de le recevoir de sa part parce que nous sommes soucieux de garder continuellement avec soin ses commandements et que nous faisons ce qui lui est profondément agréable. » Qu'est-ce qui lui est agréable? C'est de s'aimer les uns les autres. Et quand on est dans sa volonté, quand on est là, on sert, puis c'est lui qui nous a appelés. Mais on le fait dans l'énergie du Saint-Esprit, on marche dans ses voies. Bien, tout ce qu'il nous faut pour accomplir sa volonté, il va nous le donner. Il n'est pas en train de dire, je vais l'avoir ma BMW. Il est en train de dire, dans ce que je t'ai appelé, tu manqueras de rien. Dans ce que j'ai commandé pour ta vie, tu manqueras de rien. Dans ce que je t'ai appelé à donner aux autres, tu manqueras de rien. Demande tout ce que tu veux. Dans ma volonté, dans mon plan, tu vas l'avoir. Verset 23, c'est ici son commandement, que nous croyons au nom du Fils, de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Et ici, l'auteur est en train de nous donner une vue panoramique du christianisme, parce que ça nous dit que au moment qu'on a cru, eh bien, l'appel, c'est de nous aimer les uns les autres. La raison pour laquelle il nous sauve, c'est pour qu'on puisse apprendre à s'aimer les uns les autres, parce que, Jean 13, 34 et 35, à ceux-ci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et ça nous amène, le dernier point, à expérimenter la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs. Celui qui a comme mode de vie d'être solidaire à garder ses commandements a fait sa demeure en Dieu, et Dieu a fait sa demeure en lui, et nous expérimentons qu'il a fait son habitation en nous par l'Esprit qu'il nous a donné comme source. Dans Romains chapitre 8, ça nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et dans Éphésiens 3, 16, Paul va dire, et 17, « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Et c'est ce que Dieu veut, justement, de nous fortifier dans notre être intérieur par l'Esprit qu'il nous a donné. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, on a reçu cet esprit-là qui nous donne de l'assurance et qui nous donne la communication avec Dieu pour recevoir les, en anglais, les inputs, les intrants de Dieu. Et c'est important de savoir, de discerner quelle est la volonté de Dieu. Vous savez, Jésus, à un moment donné, il est dans une place où est-ce qu'il y a plein de paralytiques, plein d'infirmes. Il va simplement vers un, il laisse toutes les autres là, puis il s'en va. Son père lui a demandé d'aller voir une seule personne dans Jean chapitre 5. Et nous, on ne peut pas répondre à tous les besoins du monde entier. Mais quand on se lève le matin et on demande au Seigneur, c'est quoi ta volonté? Montre-moi. Je veux entendre, je veux savoir. Puis des fois, aimer, c'est de dire non à quelqu'un, dire pour ton bien, je te dis non. Et c'est pour ça, en conclusion, j'aimerais terminer par deux passages. Si vous voulez tourner dans Matthieu chapitre 7, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 7, les versets 3 à 5. Ça nous montre que dans une communauté, il va y avoir des gestes. Il va y avoir des gens qui vont commettre des gestes, qui vont nous décevoir, qui vont nous déplaire, qui vont nous désoler, qui vont nous dépasser, qui vont nous blesser, qui vont nous heurter. Mais voici l'attitude que le Seigneur veut qu'on aille. Matthieu 7, 3 à 5. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. » Hypocrite ou acteur, porteur de masque, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. Le Seigneur veut qu'on fasse un travail d'introspection sur soi-même, un travail sur soi-même. Quand quelqu'un vient, que ça nous agresse, de dire, attends une minute, est-ce que moi j'agresse des gens par mes paroles, par mon comportement, par mon attitude? Est-ce que moi je blesse des gens sans m'en rendre compte, Seigneur? Est-ce qu'il est en train d'être un reflet de moi que j'aime pas? Seigneur, montre-moi. Et plus qu'on va faire ça, puis qu'on va laisser le Seigneur travailler notre cœur dans la lumière, plus qu'on va être capable d'aider les autres. Non pas de leur reprocher qu'ils ont une paille dans l'œil, mais on va être capable de les accompagner puis d'être l'agent qui va les aider à enlever cette paille-là. En d'autres mots, l'Esprit de Dieu, ce qu'il veut, c'est opérer dans notre être intérieur une œuvre si grande que ça va nous amener à aimer et aider les autres. Pourquoi le Seigneur nous appelle-t-il à nous aimer les uns les autres? Parce qu'il est la source de délivrance. Puis n'oubliez pas, au début du chapitre 3, ça nous parle de l'amour de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Puis après, s'il ne nous connaît pas, les gens autour de nous, ils ne l'ont pas connu. C'est par nous, les enfants de Dieu, les chrétiens nés de nouveau, ceux qui sont des enfants de Dieu légitimes, qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont été sauvés. C'est par nous qu'on fait connaître l'amour de Dieu. C'est par nous que les gens vont découvrir combien Dieu est bon. C'est par nos gestes, c'est par notre attitude, c'est par nos paroles, c'est par notre zèle, notre amour, notre affection, notre douceur, notre sagesse. Et toutes ces choses viennent de lui. C'est ça qui va les toucher. Et ce que Dieu veut, c'est que les délivrances qu'il veut opérer en nous, que ça puisse être un témoignage, une manifestation pour des gens qui ne le connaissent pas, de voir qu'il y a un être supérieur qui peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser à l'intérieur de nous. Et pour ça, on doit laisser le Seigneur travailler notre vie. J'inviterai les musiciens à s'avancer. Et le dernier texte, c'est Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 3. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné sa vie. Jésus-Christ a été comme un serviteur. Jésus-Christ a recherché le bien de la multitude. Jésus-Christ a cherché à ce que les autres vivent. Il a donné sa vie. C'est ce qu'on veut expérimenter avec les groupes connexion. C'est ce qu'on veut vivre en tant que communauté. Et c'est pour ça que le Seigneur nous rappelle une chose. Je t'appelle à donner ta vie, mais je veux te montrer avant que moi j'ai donné ma vie pour toi. Puis tant que ce message-là ne produira pas un effet dans ta vie, ça va être un combat pour toi de donner ta vie. Puis des fois, il y a des temps, dans des saisons dans notre vie qu'on voudrait que tout soit centré sur nous-mêmes. Puis le Seigneur nous laisse aller. Puis à un moment donné, pouf, il nous réveille et dit, « OK, là je t'amène vers les autres. Ouais, mais ça me déstabilise. Ouais, mais ça me déplace un peu. » Tu sais, c'est comme, imaginez, vous êtes toujours assis au même siège, puis quelqu'un, un dimanche, s'assoit à votre place. C'est déstabilisant. Oh, 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 oh! Que c'est déstabilisant. J'espère que ça vous est jamais arrivé. Mais le Seigneur le fait pour notre bien. Parce qu'on a tendance à s'encrouter, puis à devenir comme autosuffisant, même dans notre marche avec Dieu. Le Seigneur place des défis devant nous en disant, on va vivre quelque chose d'encore plus excitant. Ouais, monsieur. Moi, je me souviens quand j'ai fait le Goliath à la ronde. Wow! C'était rien à comparer des autres manèges, des autres montagnes russes. Le Goliath. J'en ai vu un perdre, il était à côté de moi, là. Il en a perdu sa casquette tellement que la descente est intense. Oh! Wow! En haut de la pente, là, j'étais là, je dis, qu'est-ce que je fais là? Je me dis ça à chaque fois. Chaque fois que je fais un manège ou quelque chose, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Mais une fois que je l'ai fini, la pente, c'est « wow ». Puis le Seigneur, c'est comme ça. Des fois, il nous amène dans des pentes qui sont vertigineuses en disant « Hey Seigneur, me semble que tu m'en demandes pas mal. » je vais te donner ce que tu as besoin, puis tu vas ressortir, tu vas en avoir encore plus. Rappelle-toi les pains et les poissons, il restait plus que ce qu'il y avait au départ. Fait qu'avec le Seigneur, inquiète-toi pas là-dessus. Osons relever le défi. Premier pas, retourner à la croix, puis dire, Seigneur, montre-moi à nouveau combien tu m'aimes, combien toi tu t'es donné pour moi, puis combien que je bénéficie de ce que tu t'es donné pour moi, pour que notre cœur soit rempli de son amour, de ce message, pour qu'on aille aimer les gens, non pas de notre amour, mais de celui du Seigneur. Prions, s'il vous plaît. Oh Père, merci pour ta parole qui est tellement riche. Merci, Seigneur, que nos vies soient des vies inspirantes pour les gens des Gatineau, pour les gens de l'Outaouais, pour les gens de l'Est de l'Ontario, de l'Ouest du Québec. Seigneur, que cette Église, que les membres de cette Église, que cette communauté puisse être une source de vie, d'inspiration, qui puisse voir que on n'a pas seulement l'amour entre nous, mais on a de l'amour qui vient de toi pour les gens de cette région. Opère-le en nous, produis cela en nous. Délivre-nous de toute source de jalousie, de toute envie. Délivre-nous de toute haine, de tout esprit de rivalité, afin que chacun de nous puisse se donner librement et tu puisses nous envoyer à servir et à aimer librement pour la gloire de Christ. Amen. Amen.